Un moment pour la Terre, une émission préparée et animée par des membres de France Nature Environnement 04. Et le thème sera sur le retour d'expérience de la plantation de micro-forêts du hérisson, une plantation selon la méthode Miyawaki à Villeneuve. C'est le moment de retrouver donc Un moment pour la Terre. Bonjour Françoise et Laura, donc de France Nature Environnement.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, France Nature Environnement est une fédération départementale des associations de protection de la nature et de l'environnement pour le 04. Depuis 20 ans, notre association agit pour la défense de l'environnement sur tout le département. Nous participons activement aux différentes commissions consultatives relatives aux enjeux environnementaux et agissons pour la promotion du développement durable à tous les niveaux. Donc, bonjour, je suis Françoise. Je suis administratrice de FNE 04 depuis 10 ans. Je suis retraitée comme technicienne dans les laboratoires médicaux et de recherche sur les plantes. Je m'intéresse aux énergies renouvelables avec leurs atouts, leurs défauts et surtout leurs impacts environnementaux. Par ailleurs, j'aime le jardinage et j'ai une parcelle dans un jardin partagé. Donc, je laisse la parole à Laura pour qu'elle se présente.
Bonjour, moi c'est Laura, je suis en service civique au sein de FNE 04 depuis le mois de juillet déjà et je suis étudiante en école d'ingénieur agronome à Montpellier. J'ai beaucoup travaillé sur le projet de la microforêt du hérisson au cours de mon stage et c'est de ce projet dont nous allons vous parler aujourd'hui. On en a déjà discuté dans notre émission du mois d'octobre et maintenant cette forêt elle est plantée depuis 2 mois déjà à côté de notre terrain de la butinerie, l'espace de préservation de la biodiversité qui est situé au pont du Pâtre à Villeneuve. Ce projet de microforêt Miyawaki, c'est un projet ambitieux. Il a mobilisé les énergies, des salariés, des administrateurs, des bénévoles et des élèves, des scolaires pour le côté pédagogique. Nous sommes donc présents aujourd'hui pour vous confier notre témoignage et retour d'expérience sur ce projet. Tout d'abord, on peut peut-être rappeler pour ceux qui n'étaient pas présents lors de notre émission d'octobre, le principe de la méthode Miyawaki. La microforêt du hérisson, c'est comme son nom l'indique, une microforêt, donc une petite forêt de 200 mètres carrés qui a été imaginée selon la méthode Miyawaki, créée par le botaniste Akira Miyawaki, qui consiste à végétaliser des villes afin de créer des îlots de biodiversité. Elle se caractérise par des plantations d'arbres, à raison de 3 arbres par mètre carré, avec 15 à 30 espèces différentes natives de la région. Cette méthode, elle présente de nombreux avantages. Tout d'abord, les microforêts, elles sont plus riches en biodiversité qu'une plantation forestière conventionnelle, en raison du grand nombre d'espèces plantées qui pourront abriter donc un nombre de biodiversité plus important. Ces plantations, elles présentent également une meilleure reprise en permettant un meilleur enracinement et par conséquent une résistance accrue aux conditions météorologiques extrêmes, ce qui peut être utile dans les années à venir, on le sait. Cette méthode, elle permet également une meilleure stabilisation des sols et permet de lutter contre l'érosion grâce à l'enracinement des arbres présents. Et tout ça, c'est permis grâce à la forte densité d'arbres et la communication racinaire entre les arbres. Et enfin, l'avantage des forêts Miyawaki, c'est qu'elles présentent une faible intervention humaine. Pendant les 3 premières années, il est uniquement nécessaire d'arroser de manière raisonnée pour permettre aux arbres de pousser, mais également enlever les adventices, donc les mauvaises herbes, entre les arbres. Mais au-delà de ça, normalement, les microforêts n'auront plus besoin de l'intervention humaine. Françoise, elle va nous expliquer les étapes du projet et comment ce projet a été mis en place.
Bon, donc le retour d'expérience sur ce projet et la plantation de la microforêt, c'est l'aboutissement de ce projet est issu de plusieurs mois de réflexion de recherche en amont à propos de la méthode Miyawaki, de ses avantages et les contraintes, des points d'attention et des résultats espérés. En amont de ce projet, une grande phase de recherche a été menée afin de connaître l'ensemble de la méthode Miyawaki et son procédé de mise en place. Par exemple, le collectif Microforêt de Toulouse en transition a fait un guide de plantation assez complet sur la méthode Miyawaki qui nous a été d'une très grande aide. Nous avons ensuite, à cela, réalisé de nombreux entretiens avec des associations, des entreprises qui ont parlé des microforêts grâce à cette méthode. Cela nous a permis de connaître leur retour d'expérience quant à la mise en œuvre et à la réalité du terrain. Nous avons donc pu obtenir plus d'informations sur la gestion préalable du sol, le choix des espèces, la conservation des arbres déjà présents sur le terrain et l'organisation du travail de la plantation. La phase de recherche qui a demandé le plus de travail était le choix des espèces à planter. Dans un premier temps, nous avons identifié les arbres poussant naturellement, sans intervention humaine sur la parcelle. Ensuite, nous avons identifié les espèces végétales présentes dans le département grâce à l'inventaire national du patrimoine naturel et fait de plus amples recherches sur leurs caractéristiques et les conditions climatiques qui leur sont nécessaires. Nous avons affiné cette liste en éliminant les plantes envahissantes et sélectionnant les espèces mellifères et menacées. Et bien entendu, nous avons suivi le conseil et disponibilité en espèces des pépiniéristes locaux. Grâce à ces recherches, nous avons réduit une liste de 4000 espèces à 25 espèces. Les espèces qui ont été choisies sont donc des cerisiers, des noyers, des charmes, des merisiers, des érables, des chênes, des pommiers, des pruniers, des arbousiers, figuiers, sorbiers, cognassiers, cornouillers, argousiers, aubépines, noisetiers, amélanchiers et prunelliers. Maintenant, on va faire une pause musicale et en vous passant le chant de l'arbre d'Elea Zalé.
Que tu ne verras pas un monde vivant et vert autour de moi. Surmontant l'hiver, la neige et le froid, les fleurs de printemps me couvrent les bras. À la lumière, mes feuilles se déploient. Je tiendrai ma promesse. Laissez-moi grandir avec mes frères. Ils sont mes racines, l'air de notre terre. Laissez-moi atteindre le soleil. Je ne comprends pas ce ciel toujours plus bas. Mes pères à terre, sans raison je crois. Les oiseaux, les ruisseaux ne sont des géants de béton s'approchent de moi. Le bruit des machines ne s'arrête pas. Elles retirent du sol la mousse des bois. Laissez-moi atteindre le soleil et au lever du jour, je tiendrai ma promesse. De notre terre, laissez-moi atteindre le soleil. Laissez-moi atteindre le soleil.
On revient avec France Nature Environnement, un moment pour la Terre. On parle d'arbres, de plantations.
Alors, on vous a parlé des recherches qu'on a effectuées et suite aux recherches effectuées est venue la phase de préparation, notamment du terrain, du sol. Donc préalablement à la plantation, on a réalisé une analyse de sol afin de pouvoir suivre l'évolution de la qualité du sol pendant les années à venir. Mais on reprendra tout cela un peu plus tard avec Françoise. Début novembre, déjà un mois avant la plantation, nous avons préparé le sol de la microforêt. Nous avons enlevé manuellement les herbes présentes sur le terrain, puis avons retourné le sol. On a fait ça à la main, croyez-moi, 100 mètres carrés à retourner, c'était long. Mais bon, planter une microforêt, c'est également répondre à toutes ces inattendues et savoir s'adapter. Donc c'est aussi ça, si vous avez envie de planter une microforêt, il faut savoir que ça risque d'arriver. Après cela, on a épandu le compost et nous l'avons incorporé au sol grâce à une griffe. Il y avait la possibilité de faire ça manuellement avec une grelinette par exemple ou avec un petit tracteur. On a choisi l'option du petit tracteur. Et ensuite, on a laissé le compost se décomposer et s'imprégner pendant un mois. En fait, la durée de décomposition du compost, elle a été déterminée grâce au retour d'interviews et de questionnements qu'on a eu avec d'autres associations qui ont planté des microforêts, qui nous ont conseillé d'attendre un mois et qui nous ont également conseillé que la plantation elle-même devait se réaliser entre le mois de novembre et février. Ce qui nous a conduit à planter ces arbres dans un froid assez conséquent. Enfin, toute une phase de préparation de la plantation a eu lieu fin novembre. Deux jours avant la plantation, nous avons reçu les livraisons des 315 arbres commandés, de la paille et du broyat. Nous avons préparé les lieux et activités pour accueillir le public et les scolaires. Et surtout, il y a eu une grande phase d'organisation de la plantation. Chaque arbre a été étiqueté en fonction d'un code couleur dépendant de sa taille qu'il aura une fois adulte. Donc on a séparé les arbustes, des arbres basses tiges, donc de moins de 5 mètres, et des arbres hautes tiges de plus de 5 mètres à l'âge adulte. Après cela, nous avons délimité le terrain en carré de 1 mètre carré pour indiquer, toujours à l'aide de ce code couleur, les arbres qui étaient plantés à chaque endroit. L'organisation du schéma de plantation avait été établie en amont. Nous avions réfléchi plus ou moins à quelle couleur mettre dans chaque carré. Et le choix de l'espèce au sein des couleurs, lui, était à faire aléatoirement. Donc on n'a pas distingué les espèces au sein de chaque catégorie. Nous aurions pu mettre un arbre de chaque hauteur, donc un arbuste, un moins de 5 mètres, un plus de 5 mètres, dans chaque carré. Mais en raison des entretiens qu'on a eus, il nous a été recommandé de réduire la quantité d'arbres hautes tiges, donc de plus de 5 mètres, qui pouvaient créer une compétition trop importante avec les autres plants. Nous avons donc choisi de mettre 40% d'arbustes, 40% d'arbres de moins de 5 mètres et seulement 20% d'arbres de plus de 5 mètres. Une fois que tout ça a été prêt, les 2 et 3 décembre, nous avons réalisé la plantation des arbres sous forme de chantier participatif. Donc en deux jours, on a effectivement planté 315 arbres et clôturé ce terrain. Au total, c'est pas moins de 120 élèves de l'école primaire de Villeneuve et 50 élèves du collège de Volx qui sont venus nous prêter main forte le vendredi pendant une demi-journée. Nous avons également accueilli les aides des Fournasses de Château Arnoux, les employés de l'Occitane en Provence et de Ephrem Fusion, nos collègues de France Nature Environnement Rhône, des professionnels du monde forestier et des familles. Pour planter, la méthode elle était simple et claire, y compris pour les enfants. C'était le plus important pour nous et je pense qu'on peut dire après plantation que ça a été un succès. Les enfants ont compris les consignes, ils s'en sont sortis comme des chefs, donc c'est pas plus mal. Donc comme je le disais, les jours avant, on avait délimité les carrés de 1 mètre carré et indiqué à l'aide du code couleur les arbres à planter dans chaque carré. Donc il fallait aller chercher l'arbre de la couleur souhaitée qui allait dans le carré, et ensuite creuser un trou d'environ 40 cm de diamètre et de profondeur, qui faisait plus ou moins ce diamètre et cette profondeur selon l'âge de la personne qui creuse. Mais l'intention est là, donc c'est le plus important. Après cela, de l'eau était mise au fond du trou, mélangée un peu avec de la terre. Il fallait ensuite disposer le plant, reboucher le trou avec de la terre, Et après cela, la base du plan a été paillée avec de la paille et du broyat. Ça, ça permet, le broyat va se décomposer, donc ça va faire un apport au sol supplémentaire. Mais ça va également permettre de protéger les racines du froid, parce qu'on a des arbres qui sont, nous ont été livrés en godets de terre, mais d'autres avec des racines nues. Donc ceux-là sont également beaucoup plus sensibles à l'hiver. C'est un moment crucial pour permettre leur survie. Donc ce paillage permet de protéger les racines du froid, mais également va permettre au sol de conserver l'eau, notamment durant l'été, où on s'attend à des périodes de sécheresse comme l'an dernier. Donc tout de suite réfléchir à ce moyen de garder l'eau, c'était important pour nous. Et enfin, le samedi, le 3 décembre, sous la pluie, nous avons planté les derniers plants restants. Globalement, une quinzaine, une vingtaine de plants. Donc les enfants ont été super efficaces et vraiment motivés pour cette plantation. Et ensuite, on a posé le grillage qui allait entourer la microforêt afin de protéger ces jeunes plants qui ont entre 1 et 2 ans, donc qui sont assez fragiles, du passage du sanglier, qui lui aime bien nous rendre visite à la butinerie qui est située juste à côté. Donc l'objectif, c'était au maximum de protéger ses plants et de tout faire pour éviter son passage. Françoise va nous parler maintenant du suivi scientifique, qui est une grande part de ce projet et qui est très important pour nous de pouvoir fournir notre retour d'expérience là-dessus.
Oui, donc la méthode Miyawaki se développe doucement. En France, et les retours d'expérience sont encore limités. Nous espérons, grâce à la microforêt du hérisson, pouvoir fournir un retour d'expérience quant à l'adaptation de cette méthode dans le bassin méditerranéen, ce qui est encore rare, et surtout pour la reprise d'un ancien sol agricole. Les microforêts ayant été surtout développées afin de créer des îlots de biodiversité en ville, nous n'avons pas identifié de retour d'expérience de microforêts en milieu agricole et espérons donc pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Pour cela, nous allons effectuer un suivi scientifique sur plusieurs points. Tout d'abord, la survie et l'évolution de la plantation. Les 315 arbres ont été plantés sur un terrain de 200 mètres carrés, comme Laura nous l'a expliqué. Nous visons donc un taux de survie d'environ 80% et une vitesse de croissance des plants comprise entre 30 cm à 1 mètre par an, ce qui a été observé dans d'autres microforêts. Nous allons porter attention à la qualité du sol et la biodiversité. Nous prévoyons une hausse de la biodiversité du sol telle que bactéries et mycorhizes, mais aussi de la pédofaune, c'est-à-dire tout ce qui est vers, insectes, cloportes, collemboles et j'en passe, ainsi qu'une hausse de faune et de flore. Donc enfin, nous allons évaluer la séquestration du carbone, enfin du CO2, sur plusieurs années. La séquestration du carbone, c'est la quantité de carbone stockée par les arbres et le sol. Vous avez certainement déjà entendu parler du CO2, qui est un gaz à effet de serre impliqué dans le changement climatique. Donc, pour leur croissance, les espèces végétales ont en effet besoin d'eau et de lumière. Mais durant ce processus de photosynthèse, elles absorbent le CO2 et rejettent de l'oxygène dans l'atmosphère. Le carbone reste emprisonné dans les racines, le tronc et les branches, où il sert à créer la matière organique essentielle
à la croissance de l'arbre. Et de l'oxygène est quant à lui rejeté dans l'atmosphère avec leurs feuilles qui offrent une surface de captation plus grande. Les feuilles présentent un avantage sur les conifères qui n'ont que de minces aiguilles. En fait, la séquestration du carbone, elle est directement liée à la photosynthèse. Donc plus un arbre fait de feuilles, plus il retire efficacement du CO2 de l'atmosphère. Du fait de la croissance plus rapide des plants de la microforêt Miyawaki, puisque, on l'a pas précisé avant, mais en fait, dans les microforêts Miyawaki, la communication racinaire, donc c'est-à-dire que les arbres vont, pour vulgariser un petit peu, échanger des informations grâce à leurs racines, et également la forte densité, donc qui va créer une compétition pour la lumière, ça va leur permettre de croître plus vite. Ils seront un peu en période de stress. Le premier qui grandit a plus de chances de survivre. Voilà. Donc, cette croissance sera plus rapide dans une forêt Miyawaki que dans une plantation classique. Et l'absorption du CO2 sera également plus rapide et plus importante. Et on estime, d'après des études menées notamment en Sardaigne, donc dans un climat similaire au nôtre, pour tout vous dire, le titre de cette étude, c'est « La microforêt en milieu aride, une mission impossible réussie ». Donc c'est-à-dire que même dans les milieux les plus secs, les microforêts ont toutes leurs chances. Et dans ce cas-là, on a observé un stockage de carbone au bout de 15 ans, on l'estime à 8 tonnes d'équivalent carbone. Je vous propose de faire notre deuxième pause musicale avec « Aux arbres citoyens » de Yannick Noah. Et ensuite, on reviendra sur le financement de ce projet et les points d'attention.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes. Poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal, faire les beaux. Balance quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteur éphémère, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses.
Donc, après cette chanson de Yannick Noah, aux arbres citoyens, on retrouve Laura et Françoise de France Nature Environnement.
Alors, comme je vous le disais juste avant, on va parler un peu de l'aspect financier des microforêts Miyawaki, parce que ça a été un grand point d'attention dans notre projet, mais également pour fournir un retour d'expérience, peut-être pas de nos erreurs, mais également que si jamais vous souhaitez planter une microforêt Miyawaki, vous soyez attentif à ces points. Notamment, donc 315 plants de planter, c'est une grosse source de dépenses qui n'était pas forcément attendue. On peut estimer aux alentours de 10 euros le plant, donc nous on a eu à peu près 3100 euros de dépenses pour juste l'achat des plants. Il y a de nombreuses recommandations qui existent, le label végétal local qui garantit l'origine des graines et qui garantit le processus de développement, etc. Mais il faut savoir que dans notre département, c'était assez compliqué à trouver. Donc nous, on a choisi de travailler avec des pépiniéristes locaux. Donc dans le département, ça offre également un avantage sur la livraison, puisqu'on a pu caler la livraison quand on voulait, et les échanges étaient plus simples. Il y a également une source de dépenses importante qui est le compost. Il y a eu à peu près 950 euros de compost, donc c'est également une source de dépenses, mais qui était importante, enfin, qui est pas négligeable en fait, puisque généralement en gestion forestière, le compost, on n'en utilise pas vraiment, mais là, c'est important pour tous ces plants qui sont quand même très jeunes, pour leur permettre de se développer convenablement. Idéalement, le compost, il est choisi en fonction de l'analyse de sol et les nutriments apportés également en fonction de cette analyse de sol. Et enfin, il y a une source de dépenses également qui est la paille. On a eu pour 500 euros de paille pour permettre du coup aux plants de de stocker l'eau et d'être protégé du haut froid. Et suite à cela, également tout le matériel qui va avec, des cuves d'eau, des pelles, parce que accueillir de nombreux scolaires, c'est également le... Ils peuvent pas tous venir avec leurs pelles comme si on demandait à des familles qui jardinent le dimanche de venir avec leur matériel. Pour les enfants, c'était un peu plus compliqué. Il y a également tout ce grillage à mettre autour de la microforêt. Pour délimiter les carrés de 1 mètre carré également, ça demande du matériel. Et donc toutes ces dépenses nous ont été permis grâce à l'Occitane en Provence, qu'on tient également à remercier. Grâce à un montant de 4 500 euros, en fait, ils nous ont reversé sur les billets d'entrée durant l'été à leur usine, 1 euro sur chaque billet. Également, surtout grâce au parrainage des arbres, on a 238 arbres qui ont été parrainés à hauteur de 10 euros l'arbre. Ça nous fait donc 2380 euros. C'est pas négligeable et ça prouve bien que ce système de microforêt Miyawaki, ça mobilise les citoyens et ça intéresse. Il y a une prise de conscience derrière qui est importante et ça montre que c'est pas un projet ou une idée loufoque. Les citoyens se mobilisent derrière ça et ça nous tient à cœur. Ensuite, on tenait à vous faire un retour également des points et des conseils qui nous ont été donnés lors des entretiens, parce que finalement, faire des recherches bibliographiques, lire des études, lire des guides, c'est bien, mais avoir le témoignage de ces acteurs qui ont planté des microforêts, c'est également important. Par exemple, nous nous sommes entretenus avec une association alsacienne qui nous témoignait que dans tout ce qu'ils avaient lu, l'arrosage qui est recommandé, c'est une fois par mois, durant l'été. Et en fait, ils nous ont dit, c'est sympa, mais dans les faits, nous, on a été surpris par la sécheresse, on n'avait pas stocké de l'eau, et 50% de nos arbres sont morts. Donc nous, on sait dans notre planning qu'on va prévoir d'arroser une fois par semaine durant l'été. On a acheté des cuves d'eau pour pallier à la sécheresse qui aura forcément lieu, on le sait. Donc, on est prêt à tout ça. Les pépiniéristes nous ont également dit, attention, vous avez des arbres qui sont des racines nues, donc il faut arroser dès le printemps pour permettre une meilleure reprise. Donc là aussi, on sera vigilant. Les retours d'expérience nous ont, comme on en a parlé juste avant, nous ont permis d'adapter le pourcentage d'arbres en fonction de leur hauteur pour éviter de créer une compétition trop importante. Il y avait une autre problématique à laquelle on était confrontés, c'était que sur notre parcelle, on avait déjà des arbres de présent. Donc, selon certaines personnes, il fallait les retirer, ce qui nous paraissait complètement aberrant. Et en fait, on a reçu d'autres conseils, d'autres associations qui avaient des arbres, qui les ont laissés, qui nous ont dit, en gros, prenez la taille du feuillage de l'arbre, vous reportez ça au sol et vous retournez pas le sol sur cette surface-là pour protéger les racines des arbres. Donc c'est également pour ça qu'on a un terrain de 200 mètres carrés mais qu'il n'y a que 315 arbres au lieu de 600 selon la technique, parce qu'on a fait le choix de préserver ces arbres qui sont déjà présents, préserver leurs racines, parce qu'il faut savoir que si on retire un arbre mature, un seul arbre, il en faudrait 25 autres pour remplacer juste le carbone que cet arbre avait stocké. Donc c'est complètement aberrant d'enlever un arbre déjà présent. Et enfin, l'analyse de sol, qui était, selon les témoignages, plus ou moins aléatoire. Certains l'ont réalisé, d'autres non. Mais en effet, il est conseillé de réaliser l'analyse de sol afin de connaître les nutriments qui seront à apporter à ce sol.
et notamment le travail du sol. Les expériences étaient différentes selon le travail du sol. Passer avec un engin agricole qui effectivement est plus pratique mais risque de tasser le sol, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Travailler à la grelinette mais qui du coup demande beaucoup de travail manuel, et là sur ce point-là l'intervention de scolaire c'est pas forcément adapté puisque il faut de la force quand même pour retourner ce sol. Donc tout ça en fait c'est super important, ce retour d'expérience, c'est aussi ce qu'on a envie de valoriser, que il y a eu de l'entraide entre les différentes associations, les différentes entreprises qui ont pu mettre en place des micro-forêts, et ce retour d'expérience a été très enrichissant pour nous en tout cas. Donc pour finir cette émission, on souhaite revenir sur l'importance des forêts et plus globalement de la nature sur notre planète. Avant de vous parler de l'aspect financier du projet, on vous a parlé du stockage du CO2. Donc ce stockage, il est super important. On parle des forêts et au même titre que les océans, je pense que vous en avez déjà tous entendu parler, on parle de puits de carbone. C'est-à-dire que sur notre planète, ils stockent le carbone et normalement, dans le meilleur des mondes, le cycle du carbone, c'est un cycle, donc c'est à l'équilibre. Mais en raison du développement des activités anthropiques, donc des activités humaines, qui produisent énormément de gaz à effet de serre, et surtout empiètent sur la nature en détruisant les sols agricoles, les forêts, les espaces protégés pour toujours accroître l'urbanisation, l'industrialisation, cette capacité de stockage, elle diminue. Et surtout, elle ne suffit pas poursuivre toute cette expansion d'activité. En fait, ce cycle, il est plus du tout à l'équilibre et c'est un joyeux bordel, on a envie de dire. Et c'est à l'origine du changement climatique. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est important que les citoyens, que la population prennent conscience de l'importance des forêts dans notre monde actuel surtout.
Donc, concernant tout ce que Laura vient de vous expliquer, c'est important de planter des arbres, mais ça serait judicieux aussi de ne pas raser les forêts comme ça se passe actuellement dans le 04 pour installer des panneaux photovoltaïques, comme certains doivent être au courant. Et il y a aussi des projets du style Innovera sur Gardanne, qui est basé sur de la biomasse et qui va aussi demander beaucoup d'arbres et beaucoup d'eau aussi. Donc, il faut savoir que actuellement, sur le département, l'installation des panneaux photovoltaïques sur les surfaces artificialisées ou anthropisées, comme c'est préconisé par FNE, c'est refusé pratiquement par les opérateurs parce que c'est plus onéreux pour eux de faire ces installations. Il faut aussi savoir que les directives gouvernementales actuellement pour désirant augmenter la production d'électricité d'origine renouvelable n'est pas franchement dans le sens de la protection de l'environnement et des arbres en particulier. Donc nous allons être très vigilants dans les études en commission des projets naissants dans la région PACA. Surtout que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans notre département, nous produisons pratiquement 95% de notre consommation électrique avec les barrages hydrauliques et les parcs photovoltaïques existants. Il faut rappeler quand même qu'il existe 300 hectares de parcs photovoltaïques au Mai et sur tous les autres, le parc qui existe déjà sur le 04. Donc, il est plus que nécessaire de faire attention à la nature et en particulier à nos forêts qui sont sujettes à l'heure actuelle à pas mal d'incendies comme ça s'est produit l'été dernier et qui ont détruit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hectares. Donc, je vais laisser Laura vous expliquer nos prochaines interventions, les émissions qui seront programmées.
Alors, pour finir cette émission, déjà, on peut vous dire qu'on viendra le mois prochain pour vous parler de l'écotourisme, le tourisme durable. L'une de nos bénévoles et administratrices a participé à un forum de discussion sur toute une journée, donc il y a des choses à dire, sur le développement de ce tourisme durable, dans l'objectif de protéger l'environnement le mieux qu'on peut. Et enfin, on vous rappelle les prochains événements de FNE04. Donc je ne sais pas si vous savez, mais le 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides. Donc à cette occasion, le samedi 4 février, durant la matinée, nous serons présentes dans la salle des fêtes de Maligé pour animer un stand, un jeu, question pour un champion, sur la thématique des zones humides. Enfin, vous pouvez noter dès à présent notre assemblée générale qui aura lieu le 25 mars. Et à destination des agriculteurs qui sont installés ou en cours d'installation, et tous ceux en fait qui sont sensibles à cette question de la ressource en eau dans l'agriculture, nous organisons deux visites d'exploitation agricole afin de découvrir des systèmes d'irrigation économes en eau, notamment cette activité est liée au contrat de canal de Manosque, donc notamment sur des exploitations agricoles qui sont reliées au canal de Manosque. La première aura lieu le 24 février à Volx, à la SCEA Saint-Roch, de 10h à midi, tout ça pour parler de l'irrigation par micro-jet, et notamment du changement de pratique agricole autour de l'irrigation, enfin du changement de système d'irrigation. Et la seconde aura lieu le 15 mars à Villeneuve, à l'EARL des 4 Tours, de 10h à midi. Ici, ce sera un système d'irrigation à basse pression, et on parlera notamment du changement de pratique agricole. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui, et on vous remercie de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Au revoir, merci, et donc au mois prochain sur le tourisme durable. Merci, au revoir.